Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
Parmi les thèmes que le théâtre ose affronter et regarder les yeux dans les yeux en ne sourcillant pas, il en est tant que les sociétés observent pour leur part avec un effroi sans égal, car les mots manquent aux hommes pour nommer l'innommable et il est impossible de conceptualiser ce qui échappe radicalement à la raison. Pourtant, le théâtre, lui, dit ce qui doit être dit. Et non seulement il dit, mais il organise le drame, il fomente le pire, le prépare, le met en scène et l'accomplit. De Shakespeare à Sénèque, de Ripide à Racine et jusqu'à Édouard Bond, l'infanticide est cet abîme dans lequel nous basculent les pièces de théâtre. Girls and Boys, de l'auteur britannique contemporain Denise Kelly, s'inscrit dans cette funeste lignée. Et Constance Dollé, qui interprète le spectacle au théâtre Le Petit Saint-Martin à Paris, assume sans frémir le récit de la mise à mort par leur père, d'une fillette et de son petit frère. C'est donc avec Constance Dollé et à sa lettre I comme infanticide que nous ouvrons aujourd'hui notre encyclopédie vivante du théâtre. Elle se rendra dans ces dernières minutes vers la scène nationale de La Roche-sur-Yon où nous attend au téléphone la directrice Florence Fèvre. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
First time in my life, my eyes are wide open. Oh, my lover, for the first time in my life, my eyes can see.
Bonjour Constance Dollé.
Bonjour.
Ça paraît fou de faire dans notre encyclopédie du théâtre une entrée sur l'infanticide et pourtant c'est une constante chez les auteurs de théâtre que ces derniers soient français, grecs ou anglais pour ne citer que ceux que j'ai cités en ouverture de cette émission. D'où ma première question, comment est-ce qu'on aborde un texte qui fait de l'infanticide l'un de ses arguments ?
Je saurais pas trop quoi vous répondre. En fait, c'est vrai que, pour parler du texte de Denise Kelly, c'est évidemment un des thèmes, mais le thème, on y entre de manière tellement progressive et à la faveur d'un style qui, au départ, n'est pas celui de la tragédie. C'est-à-dire qu'on a un personnage qui, d'abord, est avant tout une femme infiniment vivante et truculente et trash et brutale. On y entre par la porte d'entrée que nous offre l'écriture, à savoir, oui, cette écriture-là, vive, ponctuée de punchline, qui au départ a été d'ailleurs envisagée comme étant l'écriture d'un stand-up. Donc je pense que c'est pas du tout une note avec laquelle il faut aborder le travail au départ. On y entre progressivement, un peu comme dans une conversation dont on ne saurait pas quelle serait l'issue.
Alors, la pièce raconte l'histoire d'une femme, elle rencontre un homme, elle tombe amoureuse, elle l'épouse, elle a deux enfants avec lui, tous deux travaillent, et elle particulièrement s'épanouit dans ce travail. C'est cela qui va amener l'homme à commettre l'irréparable. De quelle manière est-ce que Denise Kelly organise cette montée en puissance de la tragédie, Constance Dollé ?
C'est fait de manière tellement subtile en fait, c'est-à-dire qu'il alterne différentes formes de théâtralité. Au départ, on comprend que cette femme a une espèce d'autodérision, de capacité à réfléchir la vie qui a été la sienne avant ce drame, avant cette tragédie. Elle se décrit comme quelqu'un d'à la ramasse, enfin à la ramasse, hein, vraiment dans une loose absolue, avec une enfance dont on devine très rapidement que ça n'a pas été celle d'une petite fille qui a reçu beaucoup de la part de ses parents, qui n'a pas énormément confiance en elle et qui va faire une rencontre déterminante dans sa vie, comme on peut en faire parfois, savoir qu'il y a des personnes qui sont des déclencheurs et qui vous révèlent vos désirs cachés. Après, il faut avoir la force de caractère de les mettre au monde, ces désirs-là, et de les vivre. Ça, c'est la force d'un individu. Mais voilà, cet homme-là a été cette étincelle pour elle. Et lui a permis, de, au fur et à mesure que le récit avance, on comprend à quel point il a été quelqu'un qui l'a autorisé à plein de stades de son évolution professionnelle et de son évolution en tant que femme et en tant que mère aussi d'ailleurs.
C'est un drôle de texte, hein, ce texte de Denise Kelly qui est tout à fait saisissant, Constance Dolé. C'est un texte où vous êtes donc seule à prendre la parole. Par contre, sur le plateau, vous n'êtes pas seule puisque vous souhaitez de vous entourer de plusieurs invités. C'est une femme qui organise un repas chez elle. Elle a des convives à sa table et ces convives, vous les choisissez parmi les spectateurs.
Ce sont des personnes que je dois venir chercher et dont je dois favoriser l'écoute qui est évidemment différente tous les soirs parce que personne n'arrive avec la même énergie, avec la même facilité à affronter les projecteurs et tout ce qui va avec la théâtralité, quoi.
Mais outre le fait que ces personnes qui sont dans une certaine proximité avec vous sur le plateau, mais qui ne disent rien, qui vous écoutent et qui reçoivent votre parole, sans doute vous aident pour l'adresse, parce que quand on est dans un monologue, c'est toujours compliqué, l'adresse, à qui parle-t-on. Est-ce que c'est aussi une façon pour vous de dire, voilà, cette histoire n'est pas hors sol, elle se déroule au milieu de nous tous, elle n'est peut-être pas sue, elle n'est peut-être pas révélée, mais en tout cas, c'est une histoire qui a lieu ici et maintenant.
Ah mais complètement. Oui, bien sûr que ça fait partie de ça. Ça fait aussi partie, je pense, de la volonté que la metteur en scène Mélanie Leray a eue de vouloir composer une espèce de fractal, en fait. C'est-à-dire de permettre aussi au public qui, lui, est dans la salle protégé par l'obscurité, de se regarder en train d'écouter une parole. Et donc, comme cette parole peut être violente et difficile à entendre, de mettre des pare-feux, en fait. De la même manière qu'on a essayé aussi d'orchestrer pour les personnes qui sont autour de la table, d'autres pare-feux, puisque l'adresse change. Parfois, je m'adresse aussi au public dans la salle. Et donc, il y a une volonté quand même de prévenir l'auditeur, le spectateur, de lui permettre de se protéger, en fait, de pas recevoir ça avec la violence que ça requiert, enfin...
On va parler justement de ce qui est sans doute mis en place par vous-même, comédienne, dans ce monologue pour vous protéger. Et pour ça, on va écouter une première archive. C'est Emmanuel Carrère qui a écrit ce livre formidable qui s'appelle L'Adversaire, où il raconte l'assassinat par Jean-Claude Roman de toute sa famille. C'était pas vraiment un infanticide puisque Jean-Claude Roman a tué son épouse, ses beaux-parents et ses enfants dans la foulée. Mais enfin, tout de même, écoutons Emmanuel Carrère.
Cette histoire, a eu lieu en 1993. J'ai tout de suite décidé d'écrire quelque chose dessus et le livre est paru en 2000 seulement. C'est-à-dire que j'ai pas fait que ça pendant 7 ans, mais j'ai quand même fait ça pendant 7 ans. Et pendant 7 ans, il y a quelque chose qui a basculé pour moi. J'ai essayé de raconter cette histoire épouvantable, il faut dire. J'ai essayé d'en faire une fiction. Je peux pas vraiment dire que j'ai échoué à en faire une fiction, puisqu'en fait, elle a donné lieu à une fiction qui était La Classe de Neige, qui était une façon de raconter cette histoire, mais de façon très, très lointaine, pas littérale du tout. Mais, en même temps, pendant toutes ces années, je suis rentré en contact avec Roman, ce criminel, j'ai assisté à son procès, tout ça, et j'ai essayé de mille façons d'écrire cette histoire, et ça n'est que très tardivement que je me suis aperçu que je ne pouvais l'écrire au fond qu'à la première personne. Quand je dis à la première personne, c'est vraiment pour mon compte, certainement pas avec une première personne fictive qui serait de l'ordre de moi, Jean-Claude Roman. Je me suis aperçu que je ne pouvais le faire qu'en disant je, et du coup en occupant ma place face à ce que je racontais, comme si tout à coup il y avait une espèce d'objet que j'examinais, ou si j'étais un peintre, un modèle que j'aurais voulu représenter, et il fallait que je trouve, que je creuse ma place en face de ça.
Cette question de la place à prendre face à l'innommable, face au récit de l'innommable, et la question s'adresse à Constance Dolé, la femme. Est-ce que c'est une question qui vous est venue? Que vous vous êtes posé?
Évidemment, évidemment. À un moment donné, il est fait état dans la pièce de ces chaînes d'information qui diffusent comme ça des choses 24 heures sur 24 et il parle de pornographie de la douleur. Il y avait très vite chez moi la volonté d'échapper à ça, c'est-à-dire il y a un moment donné, vous avez quand même la responsabilité d'être un passeur et de certainement pas tomber dans une forme de complaisance, parce que comme le dit Denise Kelly, ça ne nous est pas arrivé à nous et ça n'est pas en train de se passer là maintenant. Et cette chose-là, elle est d'une certaine manière, c'est comme une espèce de porte d'entrée, il me semble, pour parler de cette chose avec laquelle on ne doit pas fusionner, sinon on priverait le public, et probablement moi d'ailleurs, de cette capacité à le regarder. Pour pouvoir regarder quelqu'un ou quelque chose comme de cet ordre-là, il faut avoir une certaine distance par rapport à cette chose-là et ne certainement pas fusionner avec elle. Donc oui, ça a été en permanence un souci.
C'est intéressant ce que vous dites, Constance Dollé, et ce que dit Denise Kelly. Ça ne nous est pas arrivé à nous. Et c'est peut-être la différence qu'il y a entre une pièce comme Girls and Boys et les tragédies d'Eschyle, de Sénèque, de Ripide. C'est-à-dire que celui qui vient raconter la scène est celui qui a vu dans le cas des tragédies. Ici, vous, vous racontez quelque chose qui vous a été raconté. Quand vous faites le récit de ce qui s'est passé, du meurtre, vous n'avez pas assisté, on vous l'a raconté.
Oui, bien sûr, évidemment que cette tragédie, cette femme la vit. D'ailleurs, à un moment donné, elle fait état du moment où il y a toujours ces scènes fantastiques au théâtre qui sont les scènes d'annonce. Les scènes d'annonce au moment où il y a une parole performative qui est « à partir du moment où je vais te dire cette phrase-là, ta vie ne sera plus jamais la même ». C'est toujours intéressant ces moments-là. Que ça puisse être l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une mort, l'annonce d'un mariage, enfin de choses gaies ou moins gaies par ailleurs. Mais là, il se trouve que voilà, elle ne l'a pas vécu, on lui a raconté, avec probablement toute la délicatesse du monde, même si rien n'est certainement plus difficile que d'annoncer ce genre de choses. Et ensuite, en fonction aussi des informations qu'elle a pu avoir, elle-même va le raconter avec une précision et une netteté
chirurgicale.
Voilà, voilà. Parce que je pense que plus on est dans le détail et plus on peut mettre la chose à distance, parce que on ne peut tellement pas la comprendre en soi, c'est tellement inconcevable que on doit probablement se rattacher, comme dans plein de traumas, à une précision, mais folle en fait.
Ce qui rejoint finalement ce que dit Emmanuel Carrère, il observait l'histoire de Jean-Claude Roman comme un peintre observe un modèle et il décrit. En fait, on est dans la description à ce moment-là.
Oui, je ne crois pas qu'on puisse faire autrement que de décrire. Parce que éprouver, ça fait forcément appel au fantasme et le fantasme, il est différent pour chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, on s'aperçoit bien quand on interroge un peu le public ou que les gens viennent nous parler après, que ce qui les terrorise ou qui les angoisse se loge à des endroits qui sont très différents. Donc c'est ça que ça permet aussi, c'est de laisser complètement libre cours à la réception des personnes qui assistent à ce spectacle.
Ne le conduis pas auprès d'une mère abattue, car je l'ai vue déjà jeter sur les enfants l'œil d'un taureau fou, comme si elle allait passer au crime. Elle ne renoncera pas à sa colère avant de fondre sur quelqu'un.
Malheur ! Mon malheur !
Kiss me hard before you go. Summertime sadness.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
I just wanted you to know the baby the best.
Nous venons d'entendre un extrait de Médée de Ripide qui était présenté en 2000 dans la cour d'honneur d'Avignon avec Isabelle Huppert, mise en scène de Jacques Lassalle. Isabelle Huppert donc interprétait Médée et elle revient sur son rôle de mère infanticide.
Ripide est peut-être pas celui qu'on croit. Il nous donne à voir d'abord une femme au cœur de sa souffrance et en pleine lucidité de cette souffrance. Et ça, c'est, pour moi, c'était une grande découverte, c'est-à-dire que tout d'un coup, Médée n'est plus du tout l'héroïne tragique dont le destin va être dicté par les dieux. C'est pas ça du tout, la Médée d'Euripide. On lui a d'ailleurs assez reproché, paraît-il, au moment où la pièce se joue à l'époque, parce qu'Euripide était un auteur, au fond, d'avant-garde. Parce que justement, il rompt avec les codes habituels de la tragédie à l'époque. Et il humanise Médée avec tout ce que ça comporte, de mise à distance, de réflexion sur son propre destin. C'est une Médée très responsable, d'autant plus pathétique, plongée au cœur d'une souffrance affective et politique énorme. Mais c'est une Médée très proche.
Alors évidemment, on pense à Médée lorsqu'on voit Girls and Boys, sauf que Médée, chez Denise Kelly, n'est pas une femme, c'est un homme. Et ça, c'est le changement majeur qu'opère cet auteur britannique dans l'histoire de cette, au fond, de cette constante qu'est l'infanticide. Et c'est un changement extrêmement important, parce que ce qui motive ce Médée homme, ce n'est pas ce qui motivait la Médée de Ripide. Même si cette Médée, comme dit Isabelle Huppert, déjà, elle était différente des autres héroïnes tragiques de l'époque. Qu'est-ce que vous en dites, Constance Dollé ?
Oui, c'est vrai que c'est assez brillant de sa part d'offrir la possibilité de réfléchir à... Alors après, on dit infanticide, mais c'est vrai que dans ce cas-là, on parle plus de familicide, parce que comme Jean-Claude Roman, je pense que sa femme aurait été présente, il aurait essayé de tuer la femme. C'est-à-dire que c'est une volonté de destruction quand soi-même on n'arrive pas à trouver un sens à sa vie ou une espèce de narcissisation suffisante qui fait qu'on se dit, si je plonge, tout le monde plonge avec moi. Ce que ça raconte, c'est pas tant la souffrance d'un individu, peut-être qui, comme dans Médée, a été blessé, peut-être dans l'estime qu'elle a d'elle-même, ou je ne sais pas, mais là, c'est bien de rapports de force dont il s'agit, et c'est en ça que je trouve que c'est absolument brillant et peut-être très contemporain, parce que les femmes occupent depuis peu une place et des prérogatives qu'elles n'avaient pas jusqu'à présent et qui bousculent et interrogent beaucoup probablement le genre et le masculin.
Mais ce qu'il y a de génial, je trouve, dans ce texte et dans la version que vous en donnez, parce que ça passe énormément par votre travail à vous, Constance Dollé, c'est que à partir de ce passage à l'acte terrible, c'est le point ultime du passage à l'acte, sans doute ce meurtre commis par le père, par ricochet, c'est un portrait de la femme d'aujourd'hui qui est dressé.
Mais complètement. Pour moi, le cœur de Girls and Boys, ça n'est pas tant le fait divers.
Je suis d'accord.
Que la capacité qu'il a eue à dresser un portrait d'une femme qui s'inscrit évidemment dans un monde contemporain avec l'environnement qui est le nôtre aujourd'hui, puisqu'il interroge à plein d'endroits et de manière extrêmement foisonnante les différents types de violences auxquelles on peut se trouver confronté, qu'elles soient minimes ou beaucoup plus importantes, puisqu'il parle aussi, par exemple, de ce qui se passe en Syrie actuellement. Mais c'est une manière, oui, d'interroger aujourd'hui comment on laisse une place ou pas, et comment aux femmes, et comment elles peuvent, elles, naviguer à l'intérieur de ces obstacles, de ces hostilités qu'elles exercent aussi par ailleurs. Il égratigne pas juste les hommes, il parle aussi beaucoup des femmes et de ces femmes qui sont pour certaines carriéristes mais aveugles, pas forcément très tendres comme mères, pas forcément très claires dans leur désir d'être épouse. Enfin, je trouve effectivement que c'est vraiment pas l'histoire de l'infanticide qui compte là-dedans, c'est plus comment une femme se tient debout et comment elle a réussi à se construire dans cette société contemporaine-là. Quoi.
En même temps, on pourrait vous répondre, Constance Dollé, que l'infanticide, c'est aussi quelque chose qui dit autre chose de toute une société. D'ailleurs, c'est sans doute pas un hasard si cette pièce est anglaise. Il y a derrière ça un héritage shakespearien, je pense, qui est très puissant. Et vous qui connaissez bien, je crois, les dramaturges anglais, vous savez comme moi qu'Edouard Bond aussi, c'est quelqu'un qui passe par ces zones-là d'extrême violence. Et un théâtre qui met en scène l'infanticide, c'est aussi un théâtre qui dit qu'une société est en train de s'auto-mutiler d'une certaine manière. Quand on voit Thieste représenté dans la cour d'honneur à Avignon, ça rappelle en écho Médée, représenté en 2000. Qu'est-ce qu'une société qui sacrifie ses enfants, qui tue ses enfants ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi cette portée-là politique derrière ?
Ah bah de toute façon, bien sûr qu'il y a une portée politique, puisqu'il parle beaucoup évidemment du genre, puisque le titre, c'est quand même, ça met quand même sur cette voie, mais il parle beaucoup de l'espèce. Il dit quelle autre espèce, à part l'espèce humaine, est capable gratuitement de s'autodétruire sans raison. Donc évidemment que c'est politique, et il parle au-delà de tout ça, encore une fois je reviens là-dessus, mais de cette fascination pour la violence, des tueries aux États-Unis dans les lycées, des phénomènes de gangs, de hooligans, de nationalisme, donc il aborde énormément de sujets, et c'est un théâtre évidemment politique comme beaucoup de pièces britanniques, anglo-saxonnes, peut-être plus d'ailleurs que ce qu'on peut trouver dans l'Hexagone actuellement, oui.
Je voudrais vous faire écouter une dernière archive dans cette émission, Constance Dollé. Il s'agit de Anne Dufour-Montel, philosophe et psychanalyste. Elle était auteure de La sauvagerie maternelle et reçue en 2002 sur France Culture par Francesca Piolo.
Cette sauvagerie, je la vois comme quelque chose qui excède aussi toute mère. Il y a dans le maternel quelque chose qui relève d'une sauvagerie antérieure à la maternité même, mais qui se transmet en tant qu'une mère est aussi et a été un enfant. On pourrait dire que cette sauvagerie, elle est dans le lien même de la mère et de l'enfant, et que la mère, elle est traversée, habitée par quelque chose qu'elle ne peut pas ni maîtriser, ni même savoir, mais qui la relie à une histoire ancienne, de génération en génération, qui d'une certaine manière, je parlais du serment, c'est-à-dire se transmet sous la forme du serment, c'est-à-dire sous la forme du même, Dieu reste avec moi, ne m'abandonne pas, reste en moi. C'est la part enfantine dans la mère, c'est la part abandonnée dans la mère elle-même.
On aimerait bien qu'Anne Dufourmentel soit encore parmi nous et qu'elle voie le spectacle que vous jouez au théâtre de la Porte Saint-Martin, Constance Dolé, parce que ces lumières seraient précieuses pour éclairer.
Non, mais c'est formidable ce qu'elle dit.
Oui.
C'est vraiment formidable. Et c'est vrai que Jelinek, elle en a beaucoup parlé aussi.
Elfried Jelinek?
Oui, il n'y a rien de plus juste. Parce que évidemment, il y a du monstrueux, il y a de la sauvagerie chez la femme, chez la mère, qui est extrêmement difficile à analyser, à réfléchir, et elle le dit merveilleusement bien. Cette chose-là de la fusion, de la chronophagie, de vouloir embrasser, trop serrer, trop mal étreindre, et qui fait que parfois, oui, on peut arriver à devoir interroger cette chose qui est extrêmement ténue comme limite entre le trop d'amour et l'envie de dissoudre, de faire disparaître, d'absorber, de ne pas accepter cette séparation qui renvoie évidemment à cette première séparation de la petite fille d'avec sa propre mère. Tout ça sont des thèmes qu'on peut décliner selon les genres, mais c'est vrai que je trouve chez la femme, surtout quand elle devient mère, c'est une thématique abyssale, celle de vouloir absorber, oui, celle de vouloir réduire cette distance entre elle et l'autre, à plus forte raison entre elle et son propre enfant.
Sur la scène du théâtre, vous vous tenez sur une ligne de crête absolument étonnante, Constance Dolé, une sorte de lisière très très subtile, très fine et très fragile, entre ce qui est du ressort de l'humanité absolue de cette femme et en même temps de l'humanité qui n'est plus là. C'est très étrange, l'impression qu'on a. Vous parliez tout à l'heure de votre refus de faire corps avec le drame et qu'il ne faut surtout pas faire corps avec ce drame. Vous n'êtes à aucun moment dans le pathos. Je me demandais de quelle manière l'écriture très césurée, très assurée, tout en interruption de Denise Kelly, vous tenait à distance de ce pathos.
Ça a été un vrai travail. C'est vrai que l'écriture il m'a beaucoup aidée, mais par ailleurs, après c'est le travail du comédien. C'est-à-dire que j'ai traversé des moments où j'étais tellement glacée,
oui.
Au moment même de l'apprentissage de ce texte-là. Physiquement, j'avais les mains, même encore là, d'en reparler, ça a des effets physiques. Et donc il a fallu solidifier, blinder, réfléchir à cette manière de transmettre sans être... Évidemment qu'il faut être traversé, mais traverser ne veut pas dire être affecté au point que ça ne passe pas à votre corps. Vous savez, ouais, moi c'est comme ça que je le représente, c'est-à-dire j'ai ce texte sort par ma bouche, traverse l'intérieur de mon corps, il sort, mais à aucun moment il ne doit s'arrêter à l'épiderme, à la peau, sinon je suis foutue. Je ne peux pas arriver au bout de ça. Donc, il y a quelque chose comme ça qui doit, comme disait Declan Donnellan, qui est un metteur en scène anglais, encore une fois, l'acteur est sa cible. J'ai une cible en face de moi et il y a quelque chose comme un rayon laser qui doit l'atteindre tous les soirs et je dois accompagner le verbe jusqu'à cette cible-là et ne pas lâcher. Sinon, je m'écroule. Sinon, je ne peux pas supporter. C'est trop lourd.
Mais si vous voulez voir, ami auditeur, quelqu'un, en l'occurrence une actrice, traverser quelque chose qui est de l'ordre de la sidération sans être figé, c'est vraiment Constance Dolé qu'il faut aller voir. Moi, j'ai jamais vu ça au théâtre, je vous le dis. C'est quelque chose d'étonnant, ce que vous faites. C'est tout à fait surprenant et c'est quelque chose qui ne quitte pas la mémoire. Bon, c'est aussi dû au texte, mais c'est vrai que ça quitte pas la mémoire. Vous avez quoi comme retour du public ?
On a de très beaux retours, des retours de gens qui sont bouleversés, mais dans le sens, c'est pas ému, c'est bouleversé, c'est-à-dire que ça a déplacé quelque chose en eux. En fait, c'est ça, moi, qui m'importe beaucoup, parce que je me suis infiniment interrogée sur ce que les gens allaient pouvoir garder, et j'espérais vraiment profondément qu'ils ne s'en tiennent pas à « Oh, dis donc, c'est un choc, c'est dur », parce que je trouve que ce qui doit rester, et ce qui reste visiblement, c'est la vitalité absolue de cette femme. C'est que cette femme, elle est du côté de la vie, même si ça lui arrache à chaque fois comme un nouveau-né qui respire les poumons, parce que ça fait mal de continuer à respirer après ça, et que même mettre un pied devant l'autre est un effort. Mais ce que je vois et qui me bouleverse chez les hommes, dans toutes les humanités qu'on peut croiser aujourd'hui, c'est la capacité qu'a l'homme de se réinventer, de dépasser la douleur, d'en faire quelque chose, de la transformer, et d'en faire justement cet élan vital qui nous caractérise aussi bien que nos instincts de destruction, vous voyez. Il y a quand même cette chose aussi qu'on rencontre chez des individus qui est ça, cette force de vie qu'a le nourrisson quand il naît. Et en fait, ça, je trouve ça bouleversant, quoi. Voilà. Donc, si peut-être les gens traversent cette chose-là et sortent avec matière à réfléchir et matière à aimer, alors je suis contente.
Mais s'il y a folie chez cette femme, parce que c'est une question qu'on peut se poser, qu'on est légitimement en droit de se poser, s'il y a folie chez cette femme, ce serait donc une folie choisie, une folie consentie, une folie même recherchée.
Oui, la folie, c'est drôle parce que c'est vraiment, ça embrasse tellement de choses. Mais en tout cas, si on entend par folie un pas de côté par rapport à la normalité, évidemment que c'est un pas de côté qui a été réfléchi, qui a été choisi. Après, tout ce qu'elle dit sur le travail qu'elle exerce pour travailler la mémoire, parce que finalement, c'est quand même ça aussi, quand on a été à ce point sidéré, c'est comment on va arriver à faire avec ce qui s'est passé pour continuer à vivre au présent et à envisager un futur. Donc oui, elle travaille, et de peut-être que c'est de la folie, d'arriver à se dire qu'elle va, comme un potier ou comme un sculpteur, elle va retravailler ce qu'a été sa vie avant, l'interroger, la regarder en face, pour pouvoir continuer à vivre et à respirer tout simplement. Mais je pense qu'on ne peut pas faire autrement, quoi.
Il y a certains spectacles, on le sait, qui pour les comédiens sont des marqueurs. Il y a des avant ce spectacle et des après ce spectacle. Girls and Boys, ça va jouer ce rôle-là pour vous,
Constance? Oh bah probablement. Oui. Probablement parce que ça requiert... Bon, d'abord, c'est un seul en scène et c'est une première, donc bon, voilà. Mais aussi, il y a quelque chose qui arrive là, à l'âge que j'ai, qui nécessite d'épouser une dramaturgie qui est quand même costaud. Et je me dis que la seule chose, la seule réponse que je puisse apporter à cette écriture fantastique, c'est d'être aussi solide qu'elle. Et donc, ça me force à être solide et à accepter de l'être. Parce que parfois, on peut l'être, mais on n'arrive pas forcément à dire « je suis solide, je peux me déployer à cet endroit-là ». Mais là, j'ai accepté de l'être. Donc oui, bien sûr, ça transforme.
Ah, ce monde, je te le donne.
Girls and Boys, avec la magnifique, la sidérante Constance Dollé, c'est au théâtre de la Porte Saint-Martin. Le texte est de Denise Kelly, la mise en scène est de Mélanie Leray. Quant à nous, nous reprenons notre route et nous partons pour la scène nationale de La Roche-sur-Yon, où nous attend au téléphone la directrice Florence Fèvre. Une femme directrice, oui, et c'est très légitime.
La question de la légitimité est effectivement un vrai souci, c'est comment on se sent légitime et comment on est légitimité par nos pairs. Après, pour moi, ça dépasse nos métiers. C'est-à-dire qu'on ne peut pas réfléchir cette question de comment les femmes accèdent aux postes de responsabilité en faisant finalement abstraction de la sphère personnelle et de la sphère intime. On voit qu'il y a beaucoup de femmes, en fait, qui hésitent à prendre la direction de ces institutions, tout simplement parce qu'elles portent en grande partie la charge familiale, domestique et la charge mentale. Et qu'elles s'interrogent sur comment elles vont pouvoir faire cohabiter ces deux vies avec des métiers qui sont très exigeants.
Vous pensez, Florence Fèvre, que justement ce cumul de charges auquel vous faites allusion entraîne chez les femmes directrices une autre approche du pouvoir et de l'exercice du pouvoir, en tout cas de l'exercice de la direction nationale?
On est beaucoup à réfléchir à ces questions-là et à la façon dont on fait vivre nos équipes et effectivement comment on travaille peut-être sur des partages de responsabilités plus grand, sur des équipes de direction et pas forcément sur l'idée d'une direction fortement incarnée par une personnalité, mais vraiment par une équipe. C'est-à-dire que moi, j'impulse une ligne directrice, j'ai proposé un projet, mais après, dans sa mise en œuvre au quotidien, c'est quelque chose de très ouvert, sur lequel en équipe, on échange beaucoup.
Cette ligne directrice, vous pouvez nous en dire quelques mots, Florence Fèvre?
Elle s'inscrit dans le cahier des charges du scène national, donc d'être des lieux pluridisciplinaires, ouvert sur la création, ouvert sur les esthétiques contemporaines, des lieux également attentifs à la question de l'accès à la population, aux écritures du spectacle vivant, et puis à La Roche-sur-Yon avec cette grande cité, belle cité, qui est qu'on a un pôle littérature, enfin, on est la seule scène nationale dans le réseau à développer un projet d'envergure dédié à la littérature contemporaine.
Alors c'est quoi cette vocation à aller vers la littérature contemporaine? Ça se traduit de quelle manière concrètement?
Ça se traduit par le fait que chaque saison, nous accueillons une dizaine d'auteurs en résidence. C'est des auteurs de rencontres avec la population, avec différents modules de rencontres. C'est un travail aussi en lien avec des médiathèques, des bibliothèques, avec des associations donc réparties sur toute la Vendée. C'est également un travail qui s'articule autour de la pratique de l'écriture et de la lecture, et qui est aussi en dialogue avec le plateau. La question de la porosité aussi des esthétiques et des disciplines est au cœur du projet.
Vous pouvez et même vous devriez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Traverse les nuits.
Jean Guilin, Meige, Élise Le, Chouchane, Djergaillon, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous salue, bientôt 16h, restez à l'écoute. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
La vie est un long je t'aime, quand tu es le vivant poème.